Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal, Jocelyne Moussa Opondé.
Évaluer les avancées réalisées et les défis sécuritaires à relever dans les provinces sous état de siège, c'est l'objectif principal de la visite du Premier ministre au Nord Kivu. Il y est arrivé hier avec 5 ministres de son gouvernement. L'arrêt de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe condamnant Vital Kamerhe à 13 ans de travaux forcés cassés. Hier lundi, la cour de cassation a renvoyé le président de l'UNC devant la même juridiction, mais autrement composée. Notre invité, c'est André-Marie Kito-Massimango, coordonnateur de PAX. Cette organisation panafricaine fait partie de la coalition des ONG pour la démocratie et la justice en Afrique, organisatrice de la table ronde de la semaine dernière à Kinshasa sur les contraintes qui jonchent le processus électoral de 2023. Bonjour à tous. Au Nord Kivu, le Premier ministre Samalou Kondé est arrivé à Goma hier en début d'après-midi. Le chef du gouvernement est à la tête d'une importante délégation composée de 5 ministres, dont ceux de l'Intérieur et de la Défense. L'objectif principal est d'évaluer les avancées réalisées ainsi que les défis sécuritaires à relever au moment où les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont placées sous état de siège. Le point avec Gabriel Omenia.
Le premier ministre de la RDC est arrivé en début d'après-midi de ce lundi à Goma. Samalou Kondé arrive dans un contexte où l'armée d'un côté s'affronte depuis 2 semaines dans les territoires de Rutshuru aux rebelles du M23 et dans les territoires de Masisi, la résurgence des attaques sporadiques des groupes armés qui met à mal la sécurité de la population. Le chef du gouvernement dit venir évaluer les avancées enregistrées dans l'état de siège au Nord Kivu, mais aussi apporter son soutien au FRDC sans en a précisé la nature. Samalou Kondé.
Notre but ici, c'est d'abord, bien sûr, premier, une évaluation de l'état de siège en cours. Il veut aussi apporter un message de soutien aussi à nos forces armées.
De son côté, la société civile du Nord Kivu précise que l'arrivée de Samalou Kondé inspire un espoir pour la fin des hostilités et le retour des personnes déplacées dans les territoires de Rutshuru. John Banyene.
Ce que nous attendons de l'arrivée du Premier ministre, c'est de venir nous donner un ouf de soulagement pour que nous puissions recouvrer la paix et la sécurité qui est un droit pour nous, la population du Nord Kivu.
L'agenda du Premier ministre prévoit au finish plusieurs rencontres avec les acteurs sociopolitiques de la province ainsi que l'évêque du diocèse de Goma, Mgr Willy Ngumbi. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
À Rutshuru, un calme apparent s'observe toujours dans la région de Djomba, 2 jours après le retrait unilatéral des rebelles du M23 sur les positions occupées vendredi à l'issue des combats contre les FRDC. Bien qu'ils aient reculé, le M23 sont toujours en position de force dans la mesure où ils conservent les collines stratégiques de Tchanzu et Runyoni. Cette situation ne rassure pas du tout la population de la région. Sifa Maguru pour les détails.
D'après des sources de la société civile dans la zone, les M23 sont actuellement positionnés à partir de Bugusa jusque dans les collines de Tchanzu et Runyoni, alors que les FARDC se trouvent à Rwanguba, Tchengerero et Bunagana. Nos sources affirment qu'une psychose s'observe toujours dans la zone malgré ce retrait. La population qui s'est réfugiée vers Rutshuru Centre et d'autres en Ouganda ne veulent pas rentrer car elles ne sont pas rassurées de ce retrait du M23 qui n'est pas le premier, disent nos sources. Seuls les habitants courageux tentent d'arriver au village pour prendre le nécessaire, notamment les récoltes, et retournent dans leur milieu de déplacement. Cependant, il faut rappeler que le contrôle des collines de Tchanzu et Runyoni reste stratégique dans la mesure où il facilite non seulement le contrôle des frontières entre le Rwanda, l'Ouganda et la RDC dans sa partie Rutshuru, mais aussi il donne accès au territoire des Masisi à partir de l'axe Kalengera-Tongo, ce qui explique le maintien à tout prix de cette région par les M23 et même le CNDP auparavant. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
En Ituri, au moins 17 personnes ont été tuées hier matin par des présumés ADF au village de Mangoussou, à moins de 10 km de Komanda Centre, sur l'axe Mambasa-Kisangani. Selon des sources locales, ces rebelles fuyaient des combats qui les opposaient au FRDC au village de Shaori Moya. Des centaines de familles affluent au centre commercial de Komanda. L'armée rassure que les dispositions dispositifs sécuritaires sont mis en place pour empêcher l'ennemi en débandade de s'attaquer à la population. Le point de Martial Kizabiamungu.
Les habitants du Mangoussou ont été surpris vers 9h locales ce matin par une colonne de présumés rebelles de ZADF en provenance de Shaori-Moya après avoir traversé les ponts Ituri. Selon plusieurs sources locales, à leur passage, ces rebelles, profitant de l'absence de militaires FARDC dans ces milliers, ont tué 17 personnes par balle et à la machette. La plupart des victimes sont des déplacés qui se sont installés à Mangoussou après avoir fui il y a environ une année les attaques de ces mêmes ZADF dans leur milieu. Les porte-parole de l'armée à l'Ituri indiquent que les forces loyalistes sont intervenues et poursuivent l'ennemi en fuite vers la localité de Mukasali. Gilles Ngongo appelle la population au calme et à plus de vigilance. Selon lui, ces rebelles des ZADF sont à débandade après avoir été pourchassés dans plusieurs villages dans la chefferie de Walesevonkoutou. À Komanda Centre, des centaines de familles en provenance des pays Boleki et Mangoussou affluent à grand nombre. Une forte présence de l'armée est observée à Komanda et sa périphérie pour rassurer la population et parer à toute éventualité, indiquent des sources locales. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et puis, 8 structures de santé de la chefferie de Watalinga dans le territoire de Beni sont fermées depuis bientôt 4 mois. Selon des sources sanitaires et de la société civile, la situation est consécutive à la multiplication des attaques ADF dans la région. Martial Papimukiba pour les détails.
Ce sont les centres de santé de Kikingi, Ndama, Luanoli, Maale, Bukoa, Kahondo, Mulopia et Kamanzara qui ne sont plus opérationnels. Selon les sources de l'ONG Action pour la défense des droits de l'homme, cette situation, qui dure depuis bientôt 4 mois, est consécutive à la multiplication des attaques ADF dans la chefferie de Watalinga. Si pour une bonne partie des structures sanitaires de cette région, les personnels soignants s'est déplacé du fait de l'insécurité, certaines ont été plutôt pillées et incendiées. C'est le cas du centre de santé de Loanoli qui avait été pillé et incendié à janvier dernier au cours d'une attaque ADF. Conséquence, l'accès aux soins de santé primaire est devenu difficile pour certains habitants de la chefferie de Watalinga. Les sources sanitaires dans la région confirment ces informations. Elles disent par contre que l'hôpital général de Kamango, qui venait de fermer suite à l'insécurité, a rouvert ses portes il y a une semaine. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
En justice, la Cour de cassation a cassé hier lundi l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe condamnant Vital Kamerhe à 13 ans de travaux forcés. Elle a renvoyé le président de l'UNC devant la même cour, autrement composée. Le président du collectif des avocats de Kamerhe explicite ici la décision de la Cour de cassation, la motivation et le statut de son client. Maître Jean-Marie Kabengela est au micro de Jeff Ngoy.
La Cour de cassation vient de casser l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe avec renvoi devant la même cour autrement composée. La Cour de cassation reproche à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe d'avoir statué sur l'appel sur simple notification de date d'audience au lieu de procéder par voie de citation à comparaître. C'est un moyen que nous avions évoqué devant le juge d'appel sans nous avoir été suivis. Le juge d'appel avait statué en l'absence d'une citation à prévenir comme le veut l'article 104 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Et la Cour de cassation nous a suivis quant à ce et a annulé, a cassé avec renvoi la décision entreprise. Quant à ce qui concerne les statuts de notre client, il reste en liberté au régime dans lequel la Cour de cassation l'a placé. Notre client, s'il est sur place, il pourra comparaître, mais il est libre de comparaître ou de ne pas comparaître parce qu'il s'agit là du juge d'appel devant lequel la comparution personnelle du prévenu n'est pas requise.
Dans une déclaration signée par son secrétaire général, le parti de Kamerhe, l'Union pour la Nation Congolaise, salue la décision de la Cour de cassation. L'arrêt de cassation total rendu par les hauts magistrats et juges honore au plus haut point la justice congolaise, qu'il trouve ici les remerciements les plus sincères des membres de l'UNC et alliés ainsi que ceux de tous les sympathisants épris de compassion et justice. Il s'agit ici de la victoire de la justice justice congolaise qui, indépendamment de toute influence extérieure, a su dire le droit en rétablissant son président national ainsi que certains membres de sa famille biologique dans leur droit, dit Billy Kambalé dans cette déclaration. Également dans l'actualité, ces taximens et motocyclistes qui augmentent les prix des courses de façon aléatoire dans la ville de Kinshasa, c'est la conséquence des difficultés actuelles pour s'approvisionner en carburant dans les stations-service. Si officiellement le prix de la course est inchangé, plusieurs clients qui empruntent ces moyens de transport affirment vivre cette hausse au quotidien. Ces reportages est signé Sandra Siva.
Différentes couches sociales fustigent cette pratique qui handicape leurs activités. Certains d'entre eux disent avoir été contraints de rebrousser chemin car ils ont été pris au dépourvu. Suivez l'un d'entre eux.
On payait pour le tronçon par exemple de Limité jusque sur le boulevard, c'était 1000 francs. Et maintenant, ce taximen nous demande 1500. Des fois, on est en refus carrément de rentrer à nos domiciles.
Certains salariés, contraints d'arriver au lieu de service, déplorent également cette hausse vertigineuse. Selon eux, le prix de la course augmente au gré des humeurs du taximan ou du motocycliste, et cela à leur dépens. L'un d'entre eux s'exprime.
Tu dois faire les bas bondages chaque matin et tout, on te sort des arguments que la hausse des prix des carburants et tu payes un prix 2000 francs et quand je quitte tard le boulot, il faut rentrer à la maison. Parfois, on te demande un prix exorbitant aussi. Tu peux trouver un chauffeur qui dit que non, 2500. Alors, tu regardes l'heure, parfois, t'as pas le choix, donc c'est vraiment compliqué.
Ici est de noter que c'est depuis la semaine du 5 avril que s'approvisionner en produits pétroliers est un casse-tête à Kinshasa.
Radio Okapi poursuit sa série de reportages sur l'adhésion de la RDC dans la communauté de l'Afrique de l'Est. Ainsi, certains opérateurs économiques se disent inquiets concernant la libre circulation des marchandises. D'autres voient en cette adhésion une opportunité. En ce sens, c'est en ce sens que cela peut améliorer la compétitivité. Un expert précise par ailleurs que la libre circulation de biens sera encadrée de la part du gouvernement. Plus de détails avec Cynthia Bachizi.
Fede Mouchi est un homme d'affaires qui évolue dans le commerce général à Bukavu et il est aussi membre de la FEC Sud Kivu. Une fois que l'entrée de la RDC sera effective dans l'EAC, les droits de douane seront supprimés sur les biens. Cela ne l'effraie pas, bien au contraire.
Prenons un exemple, un sac de ciment au niveau de Nairobi, c'est $5. Si ça peut arriver ici chez nous, au Congo, soit à Bukavu, à $6, $7, y compris tous les frais de transport, moi je ne vois pas le mal. Et là, notre population va respirer.
Par ailleurs, la libre circulation des biens n'exclut pas le fait que le pays peut prendre certaines mesures protectionnistes. C'est ce que souligne le professeur en droit international Moïse Tshifende, spécialiste dans les questions d'intégration régionale.
Les mesures de sauvegarde sont permises en droit communautaire. C'est-à-dire qu'un État qui voit que son économie repose sur quelques produits stratégiques, il peut exclure ces produits de la libre circulation. Ainsi, par exemple, dans l'EAC, le thé kényan ne peut pas, pendant 5 ans, ne peut pas être vendu en Tanzanie, ni en Ouganda. Donc, les autres pays considéraient que le thé, c'est un produit stratégique, ne peut pas être concerné pour le moment. Ça va entraîner l'effondrement de l'économie nationale. Donc, la libre circulation des marchandises ne veut pas dire que tout doit circuler.
Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Rendons-nous à Inongo, chef-lieu de la province du Maïndombé, où le Centre d'études sur le handicap, la justice et la résolution CH 1325 a organisé dimanche un atelier d'échange sur le bien fondé de la participation de la femme dans la gestion de la chose publique, conformément aux instruments juridiques nationaux et internationaux. Ces assises d'un jour ont eu pour but de contribuer à l'amélioration du taux de participation des femmes congolaises aux instances de prise de décision. À cet effet, le secrétaire exécutif provincial de CEAGE, Marie Mafelenkono, a appelé les femmes de cette province à se lever et à s'engager fermement pour arracher le poste de prise de décision. Marie Mafelenkono, secrétaire exécutive provinciale de CEAGE 1325, est au micro d'Irène Beaumont.
C'est un atelier pour mener un plaidoyer auprès des autorités locales et coutumières sur la participation aux instances de prise de décision et à tout niveau. La deuxième raison, c'est pour mettre en place une structure d'accompagnement des femmes en milieu périurbain pour leur participation aux instances de prise de décision. C'est une formation très très riche qui a fait à ce que les participants soient actifs. Les chefs coutumiers se sont engagés pour aider les femmes en sensibilisant plus pour mettre fin aux coutumes rétrogrades, aux barrières coutumières. À toutes ces femmes, nous leur avons demandé vraiment de s'engager fermement, de ne pas faire un recul. Elles doivent vraiment s'engager fermement afin que nous accédions facilement à nos droits. Les femmes de Maïndombe se sont levées, se sont engagées pour arracher les postes de prise de décision, comme cela se fait ailleurs dans d'autres provinces. Aux élections à venir, elles doivent postuler pour qu'une bonne représentation soit là. Afin de leur permettre d'occuper les postes dans les instances de prise de décision.
Actualité internationale. En visite à Moscou, le chancelier autrichien évoque une discussion difficile avec Poutine, car le nez amer a été reçu par Vladimir Poutine hier lundi. C'est une première pour un dirigeant européen depuis les débuts de l'intervention en Ukraine, selon un communiqué diffusé par son cabinet après la rencontre. Le chancelier autrichien s'est dit plutôt pessimiste après sa rencontre avec le président de la Russie qui veut enregistrer un succès militaire en Ukraine. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le président Poutine est entré massivement dans une logique de guerre et il agit en conséquence, a-t-il déclaré devant des journalistes à l'issue de sa visite.
L'invité.
Les contraintes qui jonchent le processus électoral de 2023 sont si nombreuses et si sérieuses que les leaders de la société civile congolaise devraient déjà dès aujourd'hui réfléchir sur le type de gouvernance consensuelle d'une éventuelle transition inévitable en cas de la non-tenue des prochains scrutins dans les délais. C'est ce qui a motivé la table ronde organisée la semaine dernière à Kinshasa par la coalition des ONG pour la démocratie et la justice en Afrique, Kodja. Notre invité, c'est l'avocat PAC André et Marie Kito Massimango, coordonnateur de cette organisation panafricaine. Il répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala.
Maître Pax André, Marie Kito Massimango, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous avez organisé la semaine dernière à Kinshasa une table ronde des leaders de la société civile sur le processus électoral de 2023. Qu'est-ce qui a motivé ce forum?
La motivation de Kodeja. Kodeja voudrait que la société civile africaine soit vraiment proactive dans toute la dynamique qui concourt à l'émergence de l'état de droit et à la promotion de la démocratie. Et c'est comme ça que, par rapport aux questions importantes qui se développent à la République démocratique du Congo, pour le moment, il y a la question, entre autres, du processus électoral. Les élections qui doivent se tenir en 2023, conformément aux dispositions légales en vigueur en République démocratique du Congo. Mais il s'est fait que, par rapport à ces enjeux, il avait fallu que la société civile puisse être proactive, c'est-à-dire la société civile devrait servir d'éclairage, la société civile devrait jouer vraiment le rôle, du moins de levier, pour que ces élections soient réellement transparentes et démocratiques.
Quels sont les défis que vous avez dégagés au cours de ce forum par rapport au processus électoral de 2023?
En fait, les défis sont les gens. Durant la table ronde, nous avons pu dégager des défis de l'ordre financier. Il y a des défis sécuritaires. Il y a des défis du cadre légal qui devraient subir du moins des réformes. Mais il y a surtout les défis de l'ordre opérationnel, c'est-à-dire la logistique et du moins de la CENI. Et partant, les plus grands défis que nous avons soulignés, on a relevé les défis de l'ordre financier. Le budget qui est prévu pour ce processus électoral est tellement modique par rapport aux autres processus. On nous parle de 240 millions de dollars pour organiser les élections en 2023, ce qui ne représente même pas la moitié de l'argent qui était utilisé dans le processus de 2018. Alors on se dit déjà, est-ce que réellement il y a la volonté de pouvoir organiser les élections?
Le forum a également réfléchi par rapport à l'éventualité de la non-organisation des élections dans le délai. Vous pensez bien sûr éventuellement à une transition qui nécessiterait alors un dialogue entre les acteurs protagonistes.
En fait, nous entendons que la CENI puisse nous dire qu'elle ne sera pas en mesure d'organiser les élections en 2023. C'est l'institution républicaine qui est dotée de pouvoir de nous dire comment elle compte organiser tous les processus, à quel moment pouvait avoir telle ou telle opération électorale. Et à l'hypothèse où la CENI nous dirait qu'elle serait dans l'impossibilité d'organiser les élections, eh bien, on ne peut pas laisser le pays en jachère. On ne peut pas laisser la porte ouverte aux violences. Puisque comme je le disais tantôt ici, dans les défis sécuritaires, vous serez d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de problèmes de sécurité auxquels la République démocratique du Congo fait face et qu'on ne sait même pas trouver des solutions. Mais on ne voudrait plus qu'il puisse y avoir d'autres violences pour venir aggraver la situation qui existe déjà. Et c'est pour cela que les leaders de la société civile ont pensé qu'il est utile, dans cette hypothèse, que toutes les contraintes telles que nous venons de le dire, si en fait on ne sait pas organiser les élections en 2023, mais il est utile que les différentes parties prenantes au processus électoral, qu'on puisse s'asseoir sur une même table pour voir quelle est l'orientation de la gouvernance à donner au pays après 2023. Et là, ça demande que tout le monde puisse se mettre d'accord, puisqu'on devrait redéfinir la question liée aux institutions politiques de la République pour qu'on aille obligatoirement dans une transition. Quoique notre constitution n'a pas prévu la transition, mais il faudra trouver maintenant les mécanismes pour légitimer cette transition qui serait inévitable, puisqu'on ne peut pas laisser le pays en jachère, comme je le disais tantôt. Il faudrait que les citoyens congolais qui ont la grande charge de travailler pour le développement de leur pays, les Congolais qui sont les seuls responsables de l'avenir de leur pays, puissent montrer à la face du monde qu'il y a une maturité politique, il y a la sagesse et que les Congolais sont compétents et les Congolais possèdent tous les atouts possibles pour booster le développement de son pays.
Maître Pax André Marie Kito Massimango, merci beaucoup.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.